Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Vous savez, la parole restera toujours notre fondation.
Vous
allez me dire, oui, pasteur, tu dis ça toutes les semaines. Oui, ben, je te le redirai encore. Parce que je vous garantis, cette parole, c'est vraiment elle qui peut vous épargner bien des problèmes. Qui peut vous amener là où vous n'imaginez même pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils ne savent pas, d'abord ils ne connaissent pas la parole de Dieu correctement. Ils ne la pratiquent pas. Ils ne l'appliquent pas correctement. Et ils échouent. Pourtant, ils vont faire certaines expériences avec Dieu. Ils vont peut-être recevoir même certaines prophéties, des vraies. Ils vont recevoir beaucoup de fausses. Ils vont écouter tout et n'importe quoi et attraper tout ce qu'ils peuvent, qui est un peu nouveau. Et qui plaît à leurs oreilles. Et des années plus tard, vous les trouvez complètement endormis spirituellement. Je vais vous dire une chose, cette parole, vous devez vous y accrocher. Quand rien ne marche, quand tout a l'air de se casser la figure autour de vous, il vous reste la parole. Et je vous garantis, et je parle par expérience, la parole vous amènera toujours à sortir de vos mauvaises situations. C'est pourquoi c'est tellement important d'étudier la parole, de la mettre en pratique, de l'étudier et de la mettre en pratique. Plus vous faites ça pendant un temps long dans votre vie, plus il va y avoir la vie de Dieu qui va venir être infusée dans vos situations. Et je vous garantis, des années plus tard, vous allez voir un puissant changement. Parce que la vie de Dieu coule au travers de vous. Et c'est obligatoire. Dieu est derrière sa parole, il doit l'accomplir. Ce que tu crois, continue de le parler. Et tu le verras s'accomplir. Mais il faut t'attacher à la parole. Et c'est des expériences inoubliables. C'est des choses de ta croissance spirituelle qui te propulseront dans les hauteurs. Mais pour ça, il faut que tu aies vraiment soif et que tu continues. Alors nous sommes en train d'étudier l'homme qui a reçu la plus grande promesse de toute l'histoire de l'humanité. Mais je vous ai montré qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham a réussi sa vie, même s'il n'a pas tout réussi, il faut être clair. Mais la Bible entière témoigne de la foi de cet homme et de la vie de cet homme. Donc je pense que si on a un tel personnage dans la parole de Dieu, nous devons étudier pourquoi il a réussi comme ça. Prendre des leçons, comprendre, pratiquer et pouvoir vraiment voir la puissance de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous a été donnée pour l'instruction. Pour éviter les erreurs, et en même temps pour pouvoir réussir avec le Seigneur, pour qu'il soit glorifié au travers de nous. Donc rappelez-vous, Dieu lui dit de partir, et souvent Dieu va nous donner un ordre,
itegeko
de laisser tout derrière nous,
yukureka byose inyuma yacu,
tous nos sécurités en quelque sorte.
Ibyo twabona biduha umutekano byose.
Parce que quand on veut vraiment marcher avec lui, il va falloir tout laisser derrière nous.
Kuko igomba kugendana n'Imana byukuri hari gihe bigusaba gusiga byose.
Notre vie passée,
ubuzima bwawe bwa kahise,
parfois même des choses qu'on doit laisser, que Dieu va nous demander de laisser spécifiquement. Ensuite, Dieu lui dit, voilà, je vais te montrer, je te montrerai le pays que je te montrerai. Dieu lui montre qu'il va faire de lui une grande nation, nous l'avions vu au début, qui va devenir une source de bénédiction.
Mais
d'abord, pour ça, il doit être béni. D'abord, il doit être béni. Et quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous demande toujours de laisser derrière nous des choses. Et il a toujours bien mieux pour nous. Les meilleures productions du pays. Le truc, c'est que les meilleures productions du pays, tu ne vas pas les manger le jour où tu as tout laissé. Ça va demander du temps. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est là où les gens souvent ont des problèmes. Mais Dieu t'appelle toujours pour le meilleur. Maintenant, il faut que tu laisses ta vie passer et que tu marches dans le meilleur. Et il va falloir apprendre à marcher dans le meilleur. Et c'est ce qu'Abraham va faire dans toute sa vie. La parole de Dieu nous montre que Dieu va le bénir et après il sera une source de bénédiction. C'est toujours l'objectif. On a vu que lui a commencé à 75 ans. Et il n'y a pas d'âge pour commencer avec Dieu. Parce que certains, vous vous êtes donné au Seigneur et vous dites, oui, moi je commence à être vieux. Non, tu n'es pas vieux, tu es jeune, tu es un bébé spirituel. Il y a beaucoup de choses devant toi. Maintenant, c'est sûr que le mieux, c'est que tu accélères le processus. Mais ne te dis pas, j'ai été sauvé, j'ai 50 ans, 60 ans, bah, je vais être tranquille, je vais m'asseoir tranquillement à l'église d'El Shaddai, j'attends le jour où je rencontrerai mon Seigneur. Non, tu as quelque chose à faire ici.
Et
il faut que tu sois en feu pour Dieu. Pour le servir et produire. Et le jour où tu partiras.
C'est
pas grave. Puisque tu rencontreras le Seigneur.
Alors,
on voit que Abraham sort et puis il ne sait pas où il va, donc il continue jusqu'à temps que Dieu lui révèle quelque chose. Et je vous ai montré là que, en fait, souvent, Dieu, au départ, nous donne des grandes lignes de notre destinée. Et je vous dis, je vous le répète, ne cherchez pas tous les détails quand Dieu a commencé à vous parler. Il y a trop de gens qui font ça et qui se plantent complètement.
Non.
Dieu t'a donné des premières grandes directions dans ta vie. Tu y vas. Tant que Dieu ne t'a pas encore parlé à nouveau, tu continues à faire ce qu'il t'a demandé de faire en première instance. Et le Seigneur, au moment opportun, quand il verra ton obéissance et ta foi, il va te parler plus précisément. Mais ne faites pas cette erreur, vous recevez quelque chose du Seigneur, une direction, et vous voulez tout savoir de A jusqu'à Z. Ça ne marche pas comme ça. Dieu va tester votre obéissance. Il va tester votre foi. Il va commencer à mettre votre caractère sur le feu. Dans la casserole. Jusqu'à temps que l'eau bout bien. Et quand ça va bien bouillir, on va voir de quoi vous êtes fait. Parce que la réalisation prophétique de la vision que Dieu vous a donnée demandera une transformation radicale de votre caractère qui se fera en bien des années. Donc, étape après étape. Ensuite, on voit, on avait vu au chapitre 12 qu'il y a une grande famine. Et Abraham fait la bêtise classique que quasiment tout le monde fait. Et il s'écarte de son territoire de destinée. Et ça, c'est souvent une erreur que l'on voit. On voit que quand des gens commencent à obéir à Dieu, ils pensent que tout va être facile. Non, il va y avoir des difficultés. Je vous ai montré, il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des moments où tu seras complètement découragé. Où rien ne marchera par rapport à ce que Dieu t'a dit.
Ce
n'est pas grave, persévère. Et il
ne
faut surtout pas faire ce que Abraham a fait, c'est-à-dire fuir. Si Dieu te dit c'est dans tel endroit, telle chose, à tel moment, tu continues à le faire. Il faut vraiment faire attention à ça. La deuxième réaction qu'on a vue, c'est le découragement. Et souvent, malheureusement, des gens se découragent. Et après, ils vont prendre des mauvaises résolutions où ils manquent de foi et ils n'avancent plus du tout. Donc, il faut continuer régulièrement à faire ce que le Seigneur vous a demandé en première instance, je vous le rappelle. L'obéissance est d'un grand prix devant Dieu. Donc Abraham s'écarte de son territoire de destinée, il va en Égypte, on l'a vu, il a failli perdre ses promesses. Mais Dieu est bon et Dieu a récupéré son erreur. Et Dieu a fait un miracle en frappant Pharaon. Et heureusement, ça ne s'est pas mal terminé pour la femme d'Abraham. Alors, au chapitre 13, nous l'avions vu. Abraham revient au point de départ. Je vous ai montré que très souvent dans nos destinées, nous tournons en rond parce que nous nous écartons de notre territoire de destinée. Et on perd du temps parce que finalement on revient au point de départ des années plus tard. Je connais beaucoup de chrétiens qui tournent en rond comme ça. Ils s'agitent, ils font n'importe quoi sous le couvert de Dieu. Et 5 ans, 10 ans plus tard, vous les retrouvez au même endroit, exactement dans le même état, ou des fois même dans un état pire, spirituellement parlant. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Dieu veut qu'on avance, même si tu avances doucement, avance. Ne te précipite pas, parce que la précipitation est un ennemi des destinées en général. Donc on a vu que Lot bénéficiait de l'onction d'Abraham. On a vu ça au chapitre 13. Et je vous ai montré que quand on est proche d'un quelqu'un qui est loin, on bénéficie de son onction. Et Lot est devenu très riche grâce à Abraham. Dieu l'avait placé à côté d'Abraham et lui avait donné vraiment une opportunité extraordinaire. Mais nous avons vu que Lot va tout gâcher. Donc au bout d'un moment, Abraham voit qu'il y a des querelles entre leurs bergers et ils vont se séparer. Et Lot était un opportuniste. On a vu le caractère exceptionnel d'Abraham. Abraham a dit, voilà, si tu vas à droite, je vais à gauche, etc. Enfin, va où tu veux et moi j'irai à l'opposé. Abraham ne dépendait pas des hommes. Il savait que sa bénédiction dépendait de Dieu. Donc il a laissé Lot partir dans les plaines du Jourdain. C'était beau, c'était bien arrosé. C'était parfait pour des brebis, pour des troupeaux et tout ce qu'on voulait, c'était facile. Mais c'est là où il y avait un problème. Le problème, c'était les gens qui habitaient dans ces coins-là. C'était des gens qui vraiment faisaient des abominations devant Dieu. Et Lot était un opportuniste, comme beaucoup de gens, malheureusement. Et je vous ai montré les caractéristiques des opportunistes. Alors, les opportunistes souvent cachent leur choix jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire ils cherchent ce qu'ils peuvent avoir de mieux d'un côté ou de l'autre. Je vous ai montré qu'ils voient à court terme. Ils ne voient jamais loin. Et souvent, ils rétrogradent au bout d'un certain temps. Ils disent qu'ils sont bénis, mais ils ne sont pas bénis. Leur bénédiction tourne très mal à ces opportunistes. Et souvent, ils font naufrage. Nous verrons que c'était le cas pour Lot, qui s'est retrouvé vraiment, c'était une catastrophe. Cet homme était complètement déprimé. Il était traumatisé par ce qui s'est passé, entre autres ce qui va se passer à Sodome et
Gomorrhe.
Et je vous ai montré que Lot va faire vraiment un très mauvais choix. C'est un opportuniste. Ensuite, je vous ai montré que parfois la séparation est biblique, mais la division n'est pas biblique. Parce que la Bible nous montre qu'il faut vivre en paix avec tous, si, du moins si cela dépend de vous, que ça doit dépendre de vous. On a vu l'histoire de Paul et de Marc avec Barnabas. Et nous avons vu que Paul n'avait pas donné au départ de deuxième chance à Marc. Par contre, Barnabas lui en a donné une deuxième. Ça a créé un problème entre Paul et Barnabas, ils se sont séparés. Mais Paul, plus tard, s'est réconcilié avec Marc. Nous avions vu ça la dernière fois. Alors, on va relire vite fait les versets 14 à 18. On avait terminé par ça la dernière fois. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Vous voyez, je vous ai montré qu'il y a parfois certaines relations qui empêchent de nouvelles révélations divines dans nos vies.
Il y a
parfois des gens envers qui Dieu nous dit maintenant il faut que tu te sépares de lui. Parce que ça te pose un problème dans ta vie spirituelle. Lève les yeux où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, l'est et l'ouest, hein, c'est ça. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. On a vu que c'est une révélation encore plus précise. C'est la troisième révélation que Abraham reçoit. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. On va revenir tout à l'heure sur le verset 17, mais on va lire le verset 18. Abraham leva ses tentes, vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, il bâtit là un autel à l'Éternel. Lis juste le verset 17 et 18, s'il te plaît, merci.
Abraham yongoroza amahema aragenda abiruhande y'ibiti bya mamure byitwa imyeroni biri Heburoni aho bakiruhoraho igicaniro.
Alors, le verset 17 et verset 18 sont des versets qui nous parlent sur quelque chose d'important sur nos destinées.
Aha, umurongo wa 17 na 18 uratwigisha kubijanye n'ivyo Imana usanga iduhamagarira.
Vous allez me dire quoi? Moi, Mamré, ça ne me parle pas. Bah, ça va te parler dans quelques minutes. Parce que nous avons vu, verset 18, que Mamré, ça veut dire force, vigueur, prospérité. Et Hébron, ça veut dire communion. Alors, c'est important dans les étapes de notre destinée.
Vous
voyez, Abraham avait des promesses, mais pour l'instant, il était là, sous des tentes.
Bon,
il avait des sous, mais il n'était pas dans une ville sécurisée. Et il
n'avait
pas d'enfant.
kandi nta mwana yari
afite. Dieu lui avait parlé d'une postérité aussi nombreuse que la poussière de la terre.
Ariko wibuke ko Imana yamubwiye ngo nzoguhura urubyaro rungana n'umusenyi wo ku kiyaga.
Donc pour l'instant, il était comme beaucoup de gens le sont à des milliers de kilomètres de la réalisation de ses promesses.
Bivuga ngo aho hantu yarahagaze iki gihe yarahantu kure cyane kugushitswa kw'amasezerano yahawe.
Et quand c'est le cas, quand le Seigneur t'a parlé, et qui t'a peut-être précisé certaines choses, renforce ta communion avec lui. Renforce ta relation avec lui. Fortifie-toi dans le Seigneur. C'est l'image justement de ces deux noms-là, Mamré et Hébron. C'est l'idée que alors que tes promesses encore tu ne les vois pas, que tu ne sais pas comment ça va se réaliser par rapport à ce que le Seigneur t'a montré, ne perds pas ton temps, ne te refroidis pas spirituellement, au contraire. Cultive ta relation avec le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. C'est un temps justement de croissance. C'est un temps où tu ne peux pas encore passer de classe, mais tu dois faire des exercices. Parce qu'on ne passe pas de classe tous les mois, frères et sœurs. C'est tous les ans, normalement, quand on travaille bien. C'est l'idée ici, bien sûr, des étapes de notre destinée. Il y a des temps où, apparemment, il ne se passe pas grand-chose dans ta vie, au niveau de ta destinée, mais c'est des temps où tu dois te fortifier dans la parole, dans la présence de Dieu. Tu cultives ta relation avec Dieu. Tu te fortifies dans le Seigneur. Alors maintenant, verset 17 aussi, ça va nous parler. Et il y a quelque chose que Dieu va lui dire ici, qui est très important. Et lui dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Il y a une chose que vous devez apprendre à faire si vous voulez voir la réalisation de vos promesses. Il y a une capacité que Dieu nous a donnée qui doit être sanctifiée. C'est l'imagination. L'imagination.
Vous
voyez, là, Dieu lui disait, parcours le pays. Pour l'instant, il ne pouvait pas posséder le pays. Il pouvait juste l'explorer. Et il y a une différence entre les deux. Quand tu possèdes, ça veut dire que tu vois devant toi la réalisation de la promesse. Quand tu parcours, c'est des temps de méditation où tu te vois comme si tu te voyais faire des choses. Et tu pries par rapport à ça. Et des fois, c'est effrayant parce que le Saint-Esprit descend sur toi et comme s'il approuvait ce que, sur quoi tu étais en train de méditer. Il faut savoir méditer sur sa destinée. Méditer sur ses promesses. S'asseoir et avec ce que le Seigneur nous a donné comme capacité, laissez le Saint-Esprit remettre ça en toi et travailler cela en toi. Tu te vois, tu fermes tes yeux et tu te vois en étant dans un état prophétique final. Par contre, fais attention, parce que quand tu vas ouvrir tes yeux, tu vas te revoir dans ton état lamentable, non prophétique. Et d'un seul coup, tous les problèmes reviennent vers toi. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de, entre guillemets, être transporté dans l'esprit. Vous savez, rêver, c'est très bon. C'est très bon. Tu t'assois, tu passes un temps de louange et d'adoration, et tu médites sur tes promesses. Ça va faire plein de choses à l'intérieur de toi. Moi, je fais souvent ça, vous savez. Moi, je fais souvent ça. Je m'assois et j'imagine. Et puis, quelques temps après, ça se passe. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous explorez. Vous pensez. Vous méditez. Vous commencez à travailler votre foi. Vous imaginez. Vous réfléchissez. Vous priez par rapport à ça. Vous parlez ces choses. C'est comme ça que ça marche. Parce que d'abord, ça doit se passer dans le monde spirituel. Pour que ça devienne une réalité dans le monde naturel. C'est comme ça que ça marche. Et ici, Dieu nous donne une clé extraordinaire. Parcours le pays. Abraham, il a pris ses tentes, il a pris ses bœufs, il a pris ses serviteurs, il a pris toute sa famille. Et il a parcouru le pays. Derrière chaque arbre, il a dû regarder.
Il a dit,
ça le Seigneur va me le donner. Oh, il y en a un autre ici. Ça le Seigneur va nous le donner. C'est pour moi et ma postérité. Sauf que juste à côté, il y avait un Philistin qui lui disait, qu'est-ce que tu fais ici? Plein d'ennemis étaient là. Oh, je regarde seulement. Souvent vous aurez ce genre de choses. Explorez grâce à ce que vous avez à l'intérieur. Parce que quand Dieu vous a fait une promesse, vous avez le droit de méditer sur cette promesse et de vous imaginer dans cet état prophétique final. Ça, c'est très puissant. Cela va travailler votre foi d'une façon extraordinaire. Et vous transporter dans les choses de l'esprit. Et il y a des moments où vous allez parler ces choses. Et le monde spirituel va être secoué. Et les choses surnaturelles vont commencer à se mettre en place. Je dis commencer. Parcours le pays. Parcours tes promesses. Et ne sois pas comme ces enfants d'Israël, les 12 espions. Qui ont parcouru. Mais qui sont revenus avec une mentalité stupide. En tout cas pour 10 d'entre eux. Ils ont raconté n'importe quoi. Dieu leur demandait d'explorer le pays pour qu'ils puissent le posséder. Tu ne peux pas posséder tes promesses sans les avoir explorées d'abord. C'est pourquoi tu dois passer du temps à explorer par la foi et par ton imagination. Afin que les choses que Dieu t'a montrées puissent tellement être infusées en toi que ça devienne quelque chose que tu rêves régulièrement.
Et
sois sûr que c'est Dieu qui te l'a promis. Et c'est comme ça que tu le verras s'accomplir parce que tu vas méditer. Ta foi va être boostée, comme on dit si bien, fortifiée d'une façon incroyable. Et tu vas pouvoir posséder la chose. Mais apprends à explorer. Il y a des moments où tu vas rêver pendant des jours, des semaines, des mois sur ça. Puis après, tu vas revenir aux réalités de la vie. Parce que ce n'est pas encore pour maintenant. Et peut-être un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans plus tard. Dieu va ressusciter cela. Et d'un seul coup, tu vas dire, waouh! Mais c'est vrai, le Seigneur m'avait montré ça. Et tu vas reméditer. Mais là, il y a quelque chose de spécial qui va se produire pour toi. Et d'un seul coup, il y a plein de choses qui vont se remettre en place. Et tu dis, ah oui, j'avais rêvé il y a 10 ans de ça. Il y a 20 ans de ça. Il y a 5 ans de ça. et ça va devenir une réalité. Et là, tu n'auras qu'une chose à dire. Merci Seigneur. C'est ta grâce.
Il n'y
a rien d'autre. C'est tout. Moi, je fonctionne comme ça. Je vous assure, je fonctionne comme ça de plus en plus. Et c'est comme ça que le Seigneur me montre ou m'a montré des choses. Je passe du temps, je les mange, je les bois, je médite dessus. À peine levé le matin, je suis très fertile dans mon esprit et dans mon âme.
Et directement,
ça tourne. Je parle des choses. Et je médite sur ces choses-là. Régulièrement. Pour qu'elle devienne une réalité. Il y a un excellent livre que je vous conseillerais de lire, mais avant, il faut avoir les cours bibliques sur la foi numéro 1 et foi numéro
2.
Sinon, vous n'allez rien comprendre. Ça s'appelle La quatrième dimension de Yonggicho. C'est excellent. Mais pas si vous n'avez pas eu des enseignements fondamentaux sur la foi. Sinon, vous allez lire et vous n'allez rien comprendre ou vous allez faire n'importe quoi.
Et
quand vous avez les cours sur la foi et que vous lisez ce livre-là, ça va beaucoup vous aider.
Et
je vous le conseille fortement. Certains, vous l'avez lu il y a très longtemps, relisez-le, ça va vous aider. Dis à ton voisin, bouge dans ta destinée. Certains, vous êtes devenus tellement statiques parfois que j'ai envie de vous secouer. Je vais avoir le ministère du secouage.
Parce
que certains, vous avez bougé, il y en a d'autres, il va falloir vous secouer, j'ai l'impression. Il y a des choses que Dieu vous a dites. Il faut que vous vous mettiez en position pour que ça bouge. Fortifiez-vous dans votre relation.
Ce
que nous avons vu au verset 18. Passez du temps avec Dieu. Ce n'est pas du temps inutile, c'est du temps où tu développes ta relation avec le Seigneur. Fortifie-toi, deviens fort. Et passe du temps à rêver tes promesses. Sois un grand rêveur qui va amener l'accomplissement de tes promesses. Je vous dis, vous ne pourrez pas réaliser de grandes choses pour Dieu si vous n'êtes pas quelqu'un qui savait rêver les rêves de Dieu. Il faut savoir rêver les rêves de Dieu. Les rêves que Dieu te donne. Tu les rêves, tu y penses, tu les médites. Tu les parles. Ne les parle pas comme Joseph à tout le monde. Sinon, tu seras dans le trou. Et là, il faudra que tu sois assez intelligent comme Joseph pour sortir du trou. Parce qu'il y en a qui reçoivent des promesses, ils vont dans le trou et ils restent dans le trou toute leur vie en se lamentant et en demandant à Dieu pourquoi. Non, Dieu veut que tu rêves.
Et
il y a certaines choses que tu dois seulement parler en présence de Dieu seul. Et tu les parles, parce que tu les rêves. Et tu dis, Seigneur, je sais qu'un jour ça va se réaliser. Merci. Parce que tu t'es vu faire ces choses. Tu te vois faire ces choses.
Mais
plus tu t'approches de Dieu, plus ces choses brillent en toi. Ça devient fort. Passe du temps avec ça.
Ça,
c'est excellent. C'est excellent. Ça va mettre des traces dans ton esprit. Tu seras indélébile, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais effacer.
Et
quand le temps divin arrivera pour toi parce que tu seras prêt, d'un seul coup, ces choses vont ressortir de ton esprit comme ça.
Les
rêves de Dieu. C'est trop bon ça. Et quand il commence à s'accomplir les uns après les autres, c'est là où tu trouveras tout ton épanouissement. Sinon, tu t'ennuieras dans cette vie. Tu passeras cette vie. Et le jour où on t'enterrera, tu connais le discours qu'on fera sur toi. Je
ne
vais pas vous le répéter toutes les semaines. Il est né en
1974
sur la colline de... Ok. Alors, on a vu que... Donc vraiment, Abraham va faire ça. Il reste vraiment, il se fortifie et il explore ses promesses. Alors maintenant nous allons lire assez rapidement, parce que c'est surtout un récit historique et je vous dirai pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole, du verset 1, 14, 1 à 16. On va juste lire ce passage et vous constaterez que c'est un passage qui est assez long. Où il
n'y
a rien de très spirituel. Et on peut toujours se demander pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un tel passage dans la Bible. Ben, je vais vous dire ça dans quelques minutes. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, Zar, de Kedor, Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal ou Tidil, pour les Anglais c'est Tidil, c'est pas Tididjek, c'est Tidil, roi de Gojim, verset 2. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Shemeber, roi de Tsobim. On simplifiera tout ça, ne vous inquiétez pas, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Vous savez, j'aimais bien les mathématiques quand j'étais jeune, et je simplifiais toujours les équations. Ne vous inquiétez pas, c'est une équation, on va la simplifier tout à l'heure. Verset 3. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. La mer Salée, c'est au sud d'Israël. D'accord ? On va, voilà. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor-Laomer. Retenez simplement ce nom, Kedor-Laomer, c'était le nom d'un roi. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedor-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm. Les Réphaïm, c'était des géants, des gens très grands, à Ashterot. Ça doit être à côté de Mouzinda, ça, je pense, non ? Karnaïm, les Zouzim, vous les connaissez tous, à Am, les Émim, à Chavé, Kirjataïm, waouh ! Et les Horiens dans leur montagne de Séir. Excusez-moi, c'est dans la Bible, alors nous devons lire la Bible. On est d'accord ? À la montagne de Séir jusqu'au chêne de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En Mikpat, qui est à Kadesh. Mince. Ils bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson Tamar. Et alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre et le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, le roi de Béla, qui est à Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedor-Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, vous apprendrez ça, tout ça par cœur pour la semaine prochaine, et Arjok, roi d'Elazar, quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. On peut penser que c'était du pétrole, peut-être. Certains ont commenté ça comme étant des puits de pétrole. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Verset 12, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, donc son neveu, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Tiens, il demeure à Sodome. Ah, il s'était approché de la vallée où il y avait Sodome et Gomorre. Maintenant, on trouve que Lot habite à Sodome. Ils enlevèrent aussi. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. L'hébreu, ça veut dire celui qui est proche du fleuve, celui qui habite proche du fleuve. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol, et le frère d'Aner qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et les battit. Et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des rois qui étaient avec des rois de Kedorlaomer, pardon, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Stop. Jusqu'au verset 17. Alors, ici, on a un récit, vous voyez, avec des rois, avec des noms partout. En gros, il y avait un roi, Kedorlaomer particulièrement, qui venait de très loin. Il venait d'une province d'Iran. C'est très loin, l'Iran. En fait, si vous étudiez un peu la géographie de d'où venaient ces rois, il y en a qui venaient de très loin, de plusieurs milliers de kilomètres. Et apparemment, ce Kedorlaomer, lui, il avait rendu esclaves les autres rois, une partie des autres rois. Et on a tout un récit ici qui est un récit purement historique. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas la prière, on ne voit rien de spirituel. Juste Lot qui continue ses gaffes, qui est déjà dans une de ces villes de Sodome, donc, qui est à Sodome. Parmi des abominables devant Dieu, et il n'a pas mis très longtemps entre le moment où il était intéressé par les plaines où il s'est séparé d'Abraham au moment où il s'est introduit parmi ces populations qui étaient des abominables devant Dieu.
Nous
verrons ce que ces gens de Sodome et Gomorrhe faisaient. Et ça a été vraiment, Dieu a dû les juger, je vous rappelle, il a détruit Sodome et
Gomorrhe.
Alors, en gros, ces rois venaient de très loin. Et comme les rois de Sodome et Gomorrhe s'étaient rebellés, Sodome et Gomorrhe, on suppose que c'était des villes dans le sud de la mer Salée, dans le sud d'Israël. On montrera quelques cartes dans les prochaines semaines pour vous donner quelques idées, mais vous pouvez peut-être voir à la fin de vos Bibles, vous avez certaines cartes pour mieux comprendre.
Et
ce sont des villes, bien sûr, qui n'existent plus, Sodome et Gomorrhe, puisqu'elles ont été détruites. Mais ici, on a tout un récit historique. Et parfois, vous allez trouver cela dans la Bible. Alors, c'est un peu étonnant. Parce qu'on se dit, pourquoi utiliser autant de versets bibliques pour nous raconter des histoires qui finalement ne nous édifient pas directement ? Parce que même si vous appreniez par cœur tous les rois qu'il y avait là, et toutes les villes, ça n'avancerait pas grand chose dans votre vie spirituelle, je pense. Non, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, la Bible a été écrite quand même sur une période de 1500
ans.
Avec plus de 40 personnes qui ont écrit. Et en fait, le truc, c'est que souvent, vous savez, il y a des gens qui ont remis en question la parole de Dieu. Et parfois, Dieu a permis dans sa parole qu'il y ait certains récits historiques qui ont confondu régulièrement des scientifiques, qui remettaient en question ce qu'on appelle la véracité de la Bible, c'est-à-dire le fait que la Bible soit vraiment vrai et inspiré de Dieu. Là, on voit ce roi Kedorlaomer qui venait de milliers de kilomètres, environ 2000 à 2500 kilomètres, d'Israël.
Dans
une province de l'Iran actuel.
Donc après, il
faut passer l'Irak.
Il faut
descendre en Syrie et aller vers Israël. À l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien pour nous repérer, pas de carte. Et certains se sont posé des questions en disant comment est-ce qu'une expédition de soldats a pu se faire à cette époque-là, avec autant d'envergure, c'est-à-dire autant de kilomètres.
Eh
bien, les archéologues et les historiens ont trouvé des choses qui ont été écrites sur ces batailles-là.
Sur ces rois
et sur aussi des villes qui étaient dans ces coins-là.
Ibintu byanditswe ibintu byakozwe muri byo bisagara ico gihe.
Et ça a confirmé le récit biblique.
Maze byemeza ivyo ngaha bibiliya yandika.
Ça fait partie de ce qu'on appelle l'histoire de la Bible.
Ibi rero biri mu byo bita kahise ka bibiliya.
C'est pour ça que des fois Dieu nous donne des choses comme ça, des petits flashs tout à fait historiques.
Nuko sanga rero Imana yandika utuntu nk'utu menga n'utuntu twamazina muri kahise.
Et il y a des historiens qui disent non, c'est pas possible ça.
Abashakashatsi biga ivya
kagaragara. À cette époque-là, non.
Ngo ntibibaho ibintu muri
kahise. Et comme par hasard, des années plus tard, on va trouver des preuves qu'effectivement cet événement-là a bien existé.
Et
ça confirme les récits
bibliques.
Ça, c'est pour vous montrer, parce que parfois on a des passages comme ça qui, bon, dire, bon, moi, ça. Lire ça en méditation matinale, ces premiers versets-là, c'est pas super génial quand même.
Et
c'est vrai, parce que ça ne nous édifie pas spécialement. On voit simplement Abraham qui était obligé de courir jusqu'à Damas en Syrie, à peu près à plus de 250
km
d'où il était. Parce que ces rois-là ont pillé Sodome. Et ils ont pris son neveu. Et Abraham voulait récupérer son neveu. Derrière Lot, on va mettre un qualificatif. On va mettre Lot, le gaffeur. Parce qu'il va faire plusieurs gaffes et Abraham va plusieurs fois, ou en tout cas au travers de lui, il va s'en sortir plusieurs fois. Parce que vraiment, il va faire des gaffes, Lot. Et c'est vraiment dommage parce qu'il avait tout. Vous voyez, c'est vraiment le type de personne. Qui avait une grâce mais incroyable. D'être proche d'Abraham, le prophète. D'un homme de Dieu. De cette carrure-là. Et franchement, il a tout gâché. Nous le verrons, il a tout gâché.
L'autre.
Et ça nous montre aussi que parfois Dieu peut nous donner de merveilleuses destinées, mais que l'être humain parfois est tellement stupide qu'il va tout gâcher. Et Lot en fait vraiment partie, je vous dis, ça va être un traumatisé, il va finir sa vie, ça va être une catastrophe. Donc on voit qu'Abraham va vraiment aller loin, va aller à plus de 250 km pour récupérer Lot. À côté de Damas en Syrie, et avec 300 et quelques soldats, parce que rappelez-vous, ils étaient dans une insécurité complète dans ces temps-là. Je vous l'ai dit et je vous le redis, Abraham a pris beaucoup de risques de partir de la ville d'où il était, parce que les villes étaient rares à l'époque. Quand on vivait sous des tentes, dans des campements, on pouvait se faire piller d'un seul coup par des pillards, des bandits qui passaient, ils tuaient tout le monde, ils violaient les femmes, ils tuaient tout le monde, les enfants, ils faisaient des esclaves, ils pillaient tout, ils détruisaient tout.
Et
il n'y avait aucune instance de justice pour les traduire. C'était chacun pour sa peau.
Donc il est
obligé d'avoir une armée. Abraham avait une armée, il avait 318 personnes
qui
étaient entraînés, qui savaient se bagarrer. Au cas où il y aurait un problème, effectivement, là il y a eu un problème.
Vous
voyez, on voit vraiment l'insécurité dans laquelle ces gens-là vivaient à l'époque. C'était terrible. Et Abraham était au milieu d'ennemis. On verra d'abord qu'il y a des moments où il va devoir faire alliance. Pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que quand vous êtes trop béni, vous verrez que vous attirez la jalousie. La bénédiction est très bonne, est excellente, mais il faut avoir le caractère avec, parce que sinon vous allez en vouloir à tout le monde qui vous en veut. Alors, ce qui va se passer donc, c'est que Abraham remporte cette bataille.
Abraham aranesha intambara.
Récupère Lot, les biens, il ramène tout.
Agarukana Loti, agarukana ibintu, agarukana byose.
Les gens de Sodome.
Abantu b'i Sodome.
Et là, il va se passer un événement très particulier sur lequel on va s'arrêter un certain temps. Nous allons commenter cela parce que c'est vraiment un événement vraiment étonnant et vraiment très particulier de cette période de l'Ancien Testament. Alors on va lire à partir du verset 17 jusque donc au verset 24, c'est jusqu'à la fin de ce passage. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, rappelez-vous ce roi d'Iran qui venait quasiment d'une province d'Iran et qui avait assujetti les autres, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Rappelez-vous, Sodome, c'est la ville qui avait été pillée par Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18, Melchisédek. Ah, nous allons nous intéresser à ce personnage dont vous avez certainement entendu quelque chose. Parce que si vous avez lu la Bible, je pense que vous avez lu ce nom. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Verset 21, « Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas. » Oh là là, on va étudier ça aussi. « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Verset 24, « Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eskol, Mamré, et ceux et eux, ils prendront leur part. » Est-ce que tu veux lire ça en Kirundi ? Merci. 18 jusqu'au 24.
Ngo kandi Melkisedeki umwami w'Isalemu umuherezi w'Imana isumba byose azana imitsima na vino ahezagira Aburamu aturagahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyenijuru n'isi kandi Imana isumba byose iragahezaga igwaya gushiza abansi mu maboko nuko Aburamu amuha ikigira 10 muri byose umwami w'Isodomu abarira Aburamu ati ndekera nabantu ibintu bitware Aburamu yishura umwami w'Isodomu ati narahiye uhoraho manitse kuboko niwe mana isumba byose nyene ijuru n'isi yuko ntazogira ikintu na kimwe co mu byawe ntwara naho koba kanyuzi canka kagozi k'inkweto kugira ngo ntuze uvuge uti ni jewe natungishije Aburamu jeho ntaco ngomba atari impamba abantu banje bariye nabo twatabaranye ubu ubagabanganye imigabane yabo nibo Aneri na Eshikori na Mamure bo nibajane imigabane yabo.
Alors ici, nous voyons apparaître un personnage étonnant.
Gaha, mukanya gatonya haje umuntu atangaje.
Un certain Melchisedek.
Witwa Melchisedek.
Et la Bible va nous donner plusieurs fois des références sur Melchisedek.
Bibiliya kenshi iratubwira uyu muntu akatari.
Il y a plusieurs passages.
Hari bice bitari bike.
De la parole de Dieu qui vont citer ce passage de Genèse.
Ibice bitari bike byo mu ijambo ry'Imana biguma bisubiramwo uyu murongo.
Et qui vont nous montrer que Melchisedek, c'était ce qu'on appelle un type de Christ, c'est-à-dire quelqu'un dont on peut tirer certains événements de la vie pour illustrer qui est Jésus.
Il
y a un certain nombre de personnages bibliques qui représentent Christ dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, qui représente Christ. Ce sont des images. Alors, Melchisédek, on apprend qu'il est roi de Salem. Donc, il est dit dans ce verset 18, donc, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et Abraham va faire quelque chose de particulier.
Et
il va lui apporter la dîme du butin. Et là, il y a plein de choses. D'un seul coup, c'est comme si ce passage tombait comme ça du ciel, plouf, et d'un seul coup, après avoir lu ce récit historique où il n'y a rien de spirituel, d'un seul coup, plaf, il y a plein de choses spirituelles qui tombent comme ça.
Kugeza aha twasomye ibintu menga nta bintu by'impuhemu cyane birimo mukanya gatonya he ibintu menga ni by'impuhemu biradutse.
Alors on apprend des choses sur la Genèse.
Twiga ibintu kwitanguriro.
On est avant la loi de Moïse.
Aha ni mbere yuko ibyagezwe bya Mose bitangwa.
Parce que rappelez-vous que la loi de Moïse est venue au travers donc de Moïse.
Wibuke ibyagezwe byatanzwe na Mose.
Elle est venue 1500 ans avant Jésus. Mais là, Abraham, le récit que nous sommes en train de lire, c'est environ
1900-1950
ans avant Jésus. Donc disons en gros 450 ans avant la promulgation de la loi de Moïse. Que vous trouvez avec l'Exode, le Lévitique, Deutéronome en parle un peu aussi, etc. Avec les nombres, on voit Dieu donne la loi à Moïse. Et là, il y a vraiment cette loi, cette alliance qui est contractée avec le peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Mais là, on est bien avant ça. On est dans la Genèse et on voit apparaître un sacrificateur qui va être une image dans certains domaines de Christ. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi la Bible l'utilise. D'abord, j'aimerais que vous compreniez un petit peu la différence entre sacrificateur, prophète et roi. Parce que c'est ce que vous verrez dans l'Ancien Testament. Et de façon étonnante, nous allons voir que le sacrificateur et le prophète ce sont deux ministères que l'on trouve au début de la Genèse et tout le long de l'Ancien Testament. Le ministère de prophète, vous le retrouverez aussi dans le Nouveau Testament, mais pas le ministère de sacrificateur, en tout cas pour nous tel quel. Bien que la Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs et des rois, mais ça signifie certaines choses par rapport à notre position en Christ. Ça, on pourra en parler. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez le rôle distinctif de ces trois ministères. Le roi, Dieu a voulu la royauté pendant une période parce que son peuple l'a réclamé. Et vous vous rappelez que le premier roi d'Israël, ça va être qui? Le premier roi d'Israël, eh bien, nous le savons, c'est Saül. Nous savons qu'environ la royauté a duré un peu plus de 400 ans pour Israël. Au
6e
siècle avant Jésus, ça a duré du 10e au 6e environ avant Jésus. Environ 400 et quelques années. où Dieu a mis des onctions royales seulement pour le peuple d'Israël. Il
n'y
en a jamais eu en dehors du peuple d'Israël. Je parle pour gouverner un peuple. Le rôle du roi, c'était de représenter Dieu envers le peuple d'Israël. Donc, le roi, il représentait Dieu envers le peuple d'Israël. Le prophète, lui, c'était la bouche, et c'est la bouche de Dieu vers le peuple. Donc, le prophète a toujours eu ce rôle de parler de la part de Dieu au peuple. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, le mot prophète veut dire littéralement un porte-parole. Un porte-parole, par exemple, quand vous avez un porte-parole du gouvernement, eh bien, il y a un conseil des ministres où le président a déclaré telle chose aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte les paroles du gouvernement.
Il
doit faire fidèlement. C'est-à-dire, il a des choses à dire, il les dit, il dit rien de moins, rien de plus.
Sauf
si c'est un mauvais porte-parole. Mais si quelqu'un raconte n'importe quoi, normalement, on ne va pas le garder.
Parce
qu'il doit rapporter ce que la tête a dit, le gouvernement a dit. Il ne peut pas se permettre de raconter tout et n'importe quoi. Parce qu'il représente, genre, il parle de la part du gouvernement. Et le prophète, lui, il parle de la part du Seigneur, du ciel. Donc son rôle, c'était toujours de recevoir, et c'est toujours de recevoir la parole qui vient du ciel et de la transmettre au peuple de Dieu. Alors, maintenant le sacrificateur. Parce que vous voyez que Melchisedec est un sacrificateur. Il est roi et sacrificateur. Il
n'avait
pas d'onction royale. On verra qu'il y a une image dans le mot Salem. D'ailleurs, certains, quand vous commencez à entendre Salem, ça vous fait penser à une ville en Israël, non? La fin du nom d'une ville en Israël très connue, non? Oui, parce que Salem, c'était l'ancien nom de Jérusalem. C'était l'ancien nom de Jérusalem. Voilà, tout simplement. Donc, il va y avoir toute une image avec Melchisedec qui est assez intéressante. Donc, le sacrificateur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Son ministère était de représenter le peuple auprès de Dieu. C'était l'intermédiaire, le prêtre, qui recevait les offrandes de la part du peuple pour les apporter devant Dieu. La demande de pardon, le remerciement, tout dépendait du type d'offrande. On n'a pas beaucoup d'informations sur Melchisedec, sur sa façon d'exercer le ministère et qu'est-ce qu'il faisait exactement. Par contre, ce qui est très intéressant chez Melchisedec, c'est que c'est évident qu'il y avait une approbation divine sur son ministère de sacrificateur. Abraham vient vers lui. Et Abraham était prophète. Je vais vous le montrer au chapitre 20, verset 7. Genèse 27. Il est parlé, c'est Abraham qui a encore un problème avec Sarah, parce qu'il essaye de dire que ce n'est pas sa femme.
Ça va être
la deuxième fois qu'il va avoir un problème où quelqu'un va essayer de lui prendre sa femme. Et là, au verset 7, Dieu va parler à ce roi qui a voulu prendre sa femme.
Imana ivugana n'uyu muntu yagombye gutwara umugore wiwe.
Il dit maintenant rend la femme de cet homme, c'est Abraham, cet homme, car il est prophète.
Ngo none rero subizo umugabo umugore wiwe kuko ari uvugishwa nanje.
Donc on voit clairement que Abraham était dans un ministère de prophète.
Turabona ko Abraham yari umuvugishwa.
Je vous rappelle, nous sommes avant la loi de Moïse.
Mwibuke kandi ngaha ni mbere yuko ivyagezwe vya Mose bize.
Abraham ne va pas être le premier prophète de la Genèse.
Abraham si wa mbere w'umuvugishwa mu isezerano.
Parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu des ministères prophétiques, c'est très clair dans la Genèse.
Kuko mu itanguriro urabona ko hari abandi bantu bavugishijwe.
Entre autres, Enoch.
Nkuwitwa Enoch,
c'est clair. Et puis Noé.
Nkuwitwa Noah.
C'était des gens qui vraiment étaient particulièrement dans le ministère de prophète.
Bara bantu bari mu gikogwa
cy'uvugishwa. Mais le mot prophète.
Ariko ijambo ubuvugishwa.
C'est la première fois ici qu'il est utilisé.
Naha hambere ubona rikoreshwa.
Le mot sacrificateur aussi, c'est la première fois que nous le voyons tel quel.
Nijambo ngo umuherezi niho hambere tubona rikoreshwa.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu avant forcément.
Bidasobanura ko atawundi kumbere yabayeho nk'uyu
umuherezi. C'est intéressant, on voit d'un seul coup comme si Dieu mettait un microscope sur quelque chose de très particulier qui va se passer entre deux hommes qui servaient le Seigneur.
Ariko ngaha anye umenga Imana irahaguye irabivyimbishije kugira ivyerekane abantu babiri bakorera Imana iraberekanira bagaragaza cyane.
Et Melchisedek va être ce qu'on appelle un type de Christ.
Melchisedek rero ni image de Christ.
La parole de Dieu va nous parler de cet homme à plusieurs reprises. Alors, il y a plusieurs passages. Par exemple, au psaume 110, verset
4.
Il y a une prophétie.
Vous
savez, il y a des psaumes prophétiques. Il y a des psaumes de louange, mais il y a aussi des psaumes prophétiques. Parce que entre autres, David était roi, mais il était aussi prophète, et David a écrit un certain nombre de psaumes prophétiques, de ce qu'on appelle les prophéties messianiques.
Ego ni vyaza David yari umwami, mugabo hari namazaburi yanditse ubona yuko ari amazaburi avuga cyane cyane.
Vous savez, c'est important que vous ayez une certaine culture générale de la parole de Dieu. Qui vous permet, quand vous lisez la parole et vous méditez, de savoir qu'il y a des choses que vous pouvez vraiment méditer qui vont vous nourrir et d'autres choses qui ne vous concernent pas directement.
Tukamenya yuko hari ubumenyi dukwiye kuba dufise nk'abantu b'Imana, ukamenya ko hari ibintu ushobora gusoma ukabwira iki ubikuyemo cico kujya kimpwemu n'ibindi wosoma ugasanga nta kintu kimpwemu kinini ubikuye.
Donc le psaume 110 c'est un psaume de David.
Zaburi jana na 10 rero ni zaburi ya David.
Et on va lire un peu plus haut à partir du verset 1.
Turasoma guhera ku murongo wa mbere.
Et la parole de Dieu va nous dire de David psaume, rappelez-vous, David était prophète et roi et là il va prophétiser. Il va donner une prophétie messianique. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En fait, David donne une révélation, on ne sait pas comment il l'a reçue d'ailleurs. De quelque chose que le Père a dit au Fils avant son incarnation. C'était quelque chose de prophétique en vue de une fois que la croix serait accomplie. Revenons au verset 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est une parole qui sera reprise dans différents endroits dans le Nouveau Testament. Verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre. Le sceptre, c'est vraiment l'autorité de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Alors, étendra de Sion, c'est Jérusalem. Là, ça sera une prophétie sur le millénium. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Verset 4. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Alors, à la manière ou dans d'autres traductions, on a selon l'ordre de Melchisedec.
Ngo abantu bawe bitanga babikunze ku munsi ugomore ingabo zawe abasore bawe bazahuri nk'ikime bashazishije ukwera bavuye mu nda ya gatondo tondo uhoraho ararahiye ntazokwicuza atura umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melchisedec.
Donc à la façon dont Melchisedec
ngo mu buryo bwa Melchisedec
l'image de Melchisedec alors, dans Melchisedec, il va y avoir un certain nombre de caractéristiques qui nous montrent une image de Christ. Melchisedec va être un personnage qui apparaît d'un seul coup. On va regarder dans l'Épître aux Hébreux. Et on a l'impression que ce soit au chapitre, donc une partie du chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, on va parler à plusieurs reprises de
Melchisedec.
Et l'idée de l'Épître aux Hébreux est de montrer aux Juifs comment est-ce que on est passé d'une alliance avec un sacerdoce, c'est-à-dire une façon de servir Dieu, des sacrificateurs, ce qu'on appelait selon l'ordre d'Aaron. Aaron, ses descendants, c'est eux qui servaient. C'est sa famille qui était sacrificateur. Et ce qui s'est passé, c'est que Aaron, lui, était mortel. La façon dont il servait, et c'était l'Ancien Testament. Donc, d'une part, c'était pas, le sacrificateur n'était pas éternel.
Et
quand il mourait, eh bien, c'était son successeur, ses enfants, qui prenaient la suite du ministère. C'est pourquoi on va parler d'un sacerdoce, d'une manière de servir Dieu qui va être transmissible. Donc la parole de Dieu va nous parler dans ces passages que nous lirons la prochaine fois dans Hébreux. Donc d'un sacerdoce qui n'est pas perpétuel, ça veut dire que le sacrificateur était mortel. Et une fois qu'il mourait, c'était transmissible à sa descendance. C'était les deux caractéristiques du sacerdoce selon Aaron, à la manière d'Aaron. Mais la Bible va nous dire que Christ, lui, il était dans le sacerdoce, un sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Et c'est là où on va voir comment Dieu va utiliser ce personnage dans sa parole, qui n'aura pas de généalogie. Donc comme s'il était parachuté du ciel, entre guillemets. En expression, bien sûr. C'est-à-dire qu'il apparaît comme ça. Et comment il était unique. Et nous verrons que, effectivement, ça va être des caractéristiques de Christ. Donc la Bible va se servir de ce personnage biblique pour nous donner une image de ce que Jésus a fait à la croix. Jésus immortel pour l'éternité et son sacerdoce n'est pas transmissible. Nous étudierons doucement ces passages-là qui ne sont pas des passages faciles à étudier la prochaine fois. Nous découvrirons plus sur ce personnage Melchisedec. Que le Seigneur vous bénisse et on continuera la prochaine fois.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.